Alors bonjour Grégory.
Bonjour Eric.
Alors on va se présenter tout d'abord. Moi je suis Eric Lemerdy, je suis consultant chez Valtech et je travaille en ce moment avec Grégory Boissineau. On s'entend bien au niveau du boulot, donc on a décidé de faire un petit podcast sur le sujet Gradle.
Voilà.
Je vais laisser Grégory se présenter.
Donc moi je suis consultant et formateur en fait pour le cabinet en architecture informatique Zenica. Donc, et plus particulièrement, en fait, en ce moment, en fait, je suis spécialisé sur la partie outils de build et intégration continue.
Donc ça explique pourquoi tu vas pouvoir nous parler en détail de Gradle. Ok, donc d'abord, allez, vends-nous Gradle. Essaye de nous transmettre la vision Gradle, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à un autre système de build, la
Bah.
vision globale,
Donc
quoi.
en fait, donc déjà tu l'as dit, en fait, voilà, Gradle c'est quoi? C'est un système de bulles.
Ok.
C'est un système de bulles avec, en fait, en résumé, en quelques mots, c'est les conventions de Maven et la flexibilité du langage Groovy.
Donc c'est pour builder du Java.
Alors, effectivement, c'est un système de bulles en fait écrit en Java pour des cibles Java et Groovy.
D'accord.
Donc la vision de Gradle en fait c'est make the impossible possible, the possible easy, and the easy élégant. Donc ça veut un peu tout dire.
C'est clair, c'est du vrai marketing, ça.
assez clair. Donc Gradle en fait c'est plus précisément en fait ça a été fondé, c'est un outil qui est quand même assez récent parce que ça a été fondé en février de l'année dernière, en 2008. Par Hans Docter, donc c'est un Allemand en fait qui est un consultant indépendant et formateur pour Skillmatter, qui est une boîte de formation aux États-Unis. Hans Docter en fait c'est un ancien consultant senior pour Volkswagen par exemple, et c'est
D'accord.
notamment c'est un ancien committeur de JBoss et le créateur de JBoss IDE. Donc c'est quand même quelqu'un de costaud à la base.
JBoss IDE, c'est ça?
JBoss IDE qui est
Tu peux rappeler ce que c'est rapidement?
Ben en fait, c'est un plugin Eclipse pour JBoss.
Ah d'accord, ça me dit quelque chose effectivement. Ok, donc c'est un produit open source, il n'y a pas de problème. La licence, c'est du GPL,
Ça, je sais pas exactement,
du... Ouais.
mais
Bon, c'est open source quoi,
voilà,
on
c'est
peut
ça.
committer, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu effectivement la vision de Gradle, dis-nous, est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque tu es un expert de ce domaine en fait, ce que c'est en fait qu'un système de build dans l'absolu, quoi.
En fait,
Comment toi tu le définirais pour Java?
un système de build, c'est avant tout en fait un outil en fait de l'usine logicielle pour à la fois le développeur et à la fois l'intégrateur, qui va vous permettre en fait de travailler en particulier sur le code source, avec plus précisément en fait sur l'aspect génération de code, compilation, packaging, déploiement. L'aspect test, donc que ce soit des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests système. La partie métrique, lancer, collecter et analyser les métriques. Donc tout ça, en fait, c'est le rôle d'un système de build. Donc finalement, en fait, c'est un orchestrateur d'un processus, en fait.
Là, je comprends pas bien, tu es en train de me parler d'Hudson, par exemple, d'un serveur d'intégration continue, si on parle d'orchestrateur.
Alors, en fait, plus précisément, il y a deux niveaux. En fait, il y a la partie système de build qui va décrire en fait comment compiler, comment packager son code source, comment le déployer.
Ok.
Et ensuite, on va l'adosser à un moteur d'intégration continue pour invoquer, qui va invoquer en fait le script de build de manière périodique afin d'automatiser en fait le processus et d'envoyer un feedback aux équipes de développement le plus vite possible. Le
D'accord.
principe, grossièrement, c'est en fait, je suis en mode polling, c'est-à-dire je suis en écoute permanente du gestionnaire de configuration. S'il y a des changements, je vais récupérer ces changements, lancer le script de build qui va me lancer mes tâches de compilation, de packaging, mes tests unitaires, mes différentes métriques, et ensuite, éventuellement en cas d'erreur, envoyer un feedback, donc différents mécanismes de notification aux équipes de développement.
D'accord. Donc, si je résume pour voir si j'ai tout compris, le Gradle, en fait, le système de build, lui, il est là juste pour décrire un peu comment un projet se compile, se package, etc.
Voilà, c'est
Et
ça.
ça va être exécuté après dans un serveur d'intégration continue.
Voilà.
D'accord, ok. Donc, maintenant que tu nous as défini tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des features essentielles de Gradle? Qu'est-ce qui...
Bah, en fait, Gradle, donc comme je commençais déjà tout à l'heure à te le dire, en fait, donc c'est vraiment un système de build. Donc, il est écrit en Java pour des cibles Java et Groovy. C'est un système de build open source sous licence Apache et avec une DSL en fait Groovy au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le développeur ou l'intégrateur va pouvoir écrire son système, son script de build. On va parler de script. Directement en langage programmatique qui est le langage Groovy, permettant en fait d'avoir en fait une syntaxe vraiment full programmatique, c'est-à-dire on peut mettre des conditions. Le fait d'utiliser Groovy va pouvoir permettre de réutiliser en fait toute bibliothèque Java existante.
Ça devient un vrai projet alors en fait. Un script Gradle finalement c'est un vrai programme quoi.
Tout à fait. En fait, souvent en fait, les scripts de build en fait sont surtout pour les managers mais pour certains développeurs en fait ils voient ça comme juste on l'a fait et c'est fini. Alors qu'en fait non, c'est vraiment une pièce maîtresse dans un projet. Il faut vraiment voir en fait déjà sa vie, ça évolue. Hein, faut pas hésiter. Un script de build doit évoluer au cours du temps. On doit programmer, écrire en fait un script de build comme finalement on programme une application. C'est vraiment très important. Alors c'est un peu moins important sur les applications de gestion, l'informatique de gestion en Java J2E, où c'est très conventionné, donc c'est toujours la même chose. Mais dès qu'on passe sur des projets non conventionnés ou sur des langages autres que Java J2E, ben là, c'est là qu'on voit que c'est
Il y a des choses à inventer,
de
donc
plus en plus
c'est
important.
bien d'avoir ce pouvoir d'expression, quoi.
Pour continuer sur les features de Gradle, donc l'idée donc c'est principalement c'est surtout il utilise les conventions de Maven. Donc on le détaillera par la suite.
Ouais, on va voir ça en détail.
Les conventions de Maven, donc ça impacte beaucoup de choses, mais surtout contrairement à Maven, c'est surtout flexible. Et ça c'est le point essentiel, on va le détailler, c'est qu'on n'est pas si on ne veut pas utiliser les conventions, si on veut les surcharger, si on veut les changer, il n'y a pas de souci, c'est très simple à mettre en œuvre. Ensuite, un autre point important, et ça on le détaillera aussi, c'est qu'il utilise de manière sous-jacente et de manière programmatique un gestionnaire de dépendance indépendant qui est Apache IV. Et Apache IV, enfin, je pourrais le détailler, mais c'est vraiment le meilleur gestionnaire de dépendance du marché, le plus flexible, le plus paramétrable, vraiment.
Contre quoi il se bat à peu près, Ivy, il se bat contre Maven, non?
Ben, en fait, enfin, ça
Plexus ou...
je le détaillerai, mais en fait, le problème de Maven, c'est que c'est à la fois builder, à la fois gestionnaire de
D'accord.
dépendance et à la fois générateur de documentation.
Donc là, avec Gradle, ils ont
Ivy,
réussi à découpler les deux fonctionnalités, quoi.
voilà, en fait, Ivy, plus précisément, Ivy, c'est juste, il adresse juste la gestion de dépendance, il fait que ça et il fait très bien.
Ok.
Et après, on va lui adosser à ce gestionnaire de dépendance Ivy un builder. On peut être Ant, Gantt ou Gradle. Mais l'avantage de Gradle, c'est qu'il intègre de manière programmatique avec une DSL Groovy au-dessus de Ivy, qui permet de faciliter la mise en œuvre finalement de Ivy dans Gradle.
D'accord, donc
Mais
on a un
ça, on y
DSL
reviendra.
déjà. D'accord, tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Ça
Donc
marche.
voilà.
Ben aujourd'hui, en fait, bon, tu nous as parlé de Gradle, c'est bien. On a aussi entendu que tu nous as cité d'autres produits comme Maven, Ant, etc. Même j'ai entendu Gantt, peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, il y a un choix assez large d'outils. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un jour on a eu besoin d'inventer Gradle et surtout, bah, est-ce que tu
En
pourrais nous
fait, pourquoi
détailler
il est né, quoi.
voilà, pourquoi il est né et puis d'où vient-il
Mais en fait,
Cite-nous les défauts de ses ancêtres qui permettent de bien capter ce que fait Gradle, quoi.
Voilà. Alors, en fait, tout premièrement, en fait, c'est vrai que les outils de build, il y en a plein sur le marché, énormément, et beaucoup même méconnus. Et ça génère énormément de buzz, en particulier notamment le débat Ant versus Maven, donc je pourrais éventuellement y revenir. Et ça génère autant de buzz que des comparaisons classiques de type SWT versus Swing, Eclipse versus IntelliJ, Spring versus JB3.
Effectivement, enfin, c'est un passage obligé, quoi. Dans un projet, il faut choisir le système de build. Quoi.
Et c'est vrai que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, avec beaucoup en fait, de sujets plus politique, je dirais, c'est-à-dire les gens s'emballent au lieu de donner vraiment des arguments très techniques. Et,
bon, je compte sur toi pour nous apporter,
je vais essayer.
Pour rétablir la vérité sur les systèmes de build.
Donc, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément d'outils de build et notamment beaucoup d'outils de build qui sont nés après Maven. Et ça montre aussi que Maven, c'est pas l'outil ultime.
Tout à fait.
Et que... Il y a des gens qui ont pensé autrement, avec de meilleures approches. Pour faire court, en fait, ils ont pris ce qui est bien dans Maven et puis ils ont enlevé ce qui n'est pas bien. Donc parmi les outils, c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc il y a du Ant, bien sûr, Maven, Sconce, EasyAnt, Gantt, donc Gradle, on va le voir, il y a Kundo, S-Ant, enfin, etc. Il y en a vraiment énormément.
J'ai l'impression qu'on peut décliner, on peut même inventer notre propre système de build si on veut.
Tout à fait.
L'appeler et le réaliser en open source.
D'accord. Voilà. Donc, si on fait un rapide historique pour voir en fait pourquoi on s'est dirigé vers Gradle. Donc, au départ, dans le monde Java, Java J2E, en fait, le pionnier des systèmes de bulles, c'est Ant.
Celui-là, je le connais.
Donc, produit Apache, comme Maven. C'est vraiment le pionnier et c'est encore aujourd'hui, en fait. Finalement, je dirais, le système de bulle le plus utilisé, et c'est presque un système de bulle indétrônable.
C'est celui qui est préconisé par J2E, par exemple. Enfin, par les préco Java classiques.
Disons que...
Les préco Java de Sun, on va dire.
Voilà, okay. Plus précisément. Et en fait, donc, mon principe de Ant, c'est quoi? En fait, c'est... tu as un ensemble de targets, des cibles en français, qui décrivent en fait tes étapes de ton processus de build. Et chaque cible en fait est composée d'un ensemble de tâches qui décrivent en fait quoi faire. Et ces tasks, en fait, un des avantages de Ant, c'est qu'en fait tu prends n'importe quel outil du marché,
ouais.
N'importe quel outil tierce du marché, donc ça peut aller du framework JUnit à JMeter ou à des outils des ESB, en fait on trouve une intégration Ant, c'est-à-dire que pour faire n'importe quoi, du déploiement FTP, SCP, tout, on a une tâche Ant existante.
D'accord, donc ça c'est plutôt positif d'avoir comme ça une couverture assez large
tous les besoins. Et surtout, son avantage, c'est qu'en fait il est robuste. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas des releases toutes les 4 matins, mais c'est suffisant. Aujourd'hui, il y a tout, c'est performant, c'est bien documenté en fait en termes de documentation de référence,
ouais.
Et puis ça marche.
Ok, bon, on s'arrête là-dessus, alors on prend Ant et puis on va pas plus loin.
En fait... Le problème, c'est qu'en fait, avec Ant, en fait, on décrit son système de build en XML. Et en fait, okay. Beaucoup de personnes, en fait, reprochent la très grande verbosité
du scripting XML.
XML.
Au début de J2E, et ça a été un des points.
Mais parce que en Ant, c'est vraiment très, très bas, en fait. C'est juste, par exemple, on a une tâche de compilation, une tâche de packaging, une tâche de déploiement, ouais. Et on doit vraiment tout le coder soi-même. Et donc du coup, c'est vrai que sur des projets assez complexes, on arrive très vite à avoir un script de bulle verbeux,
okay.
Et difficilement maintenable.
D'accord.
Mais finalement, oui et non, parce que on pourrait se poser la question si finalement, en fait, c'est pas finalement une mauvaise pratique de l'utilisation de Ant. Parce que par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, qu'il existe la notion de preset def et de macro. En fait, les presets def, en fait, ça permet tout simplement, en fait, tu prends une tâche Ant et tu lui injectes en fait des valeurs par défaut.
D'accord.
Et au lieu à chaque fois quand tu appelles cette tâche hant, de remettre à chaque fois tes valeurs par défaut, et tu la définis une fois pour toutes au niveau du preset def, et puis tu l'appelles avec ces tâches par défaut, et donc tu as moins à écrire.
Mais ça change pas, ça change rien au fait que, par exemple, on n'a pas de cycle de vie et on doit réécrire son
alors ça effectivement, mais
son build à la main à chaque fois.
Il y a aussi la notion de macro. Donc preset def, c'est au lieu de réécrire une tâche hant avec toutes les valeurs, tous les attributs, etc. Donc on ne fait plus qu'à l'appeler, il utilise les valeurs qu'on lui a spécifiées. Et après, tu as la notion de macro qui est un enchaînement de tâches. Et là, déjà, tu peux factoriser.
Mais bon.
Mais après.
Là, tu capitalises pas en fait. De projet à projet, tu te retrouves à toujours avoir des scripts écrits spécifiquement pour ces projets. Donc tu peux galérer à les maintenir.
Donc ça, en fait, c'est ce que tu appelles en fait la notion de convention. Effectivement, en Ant, il n'y a pas de notion de convention. Donc, qu'est-ce que c'est que les conventions? C'est déjà une structure de répertoire commune. C'est-à-dire, typiquement, je voudrais qu'entre deux projets, mes sources Java soient dans le même répertoire. Par exemple, src main Java. Que mes sources de test soient dans src test Java dans un répertoire dédié. Mes ressources dans un répertoire dédié. Mes ressources de test dans un répertoire dédié. Mes classes pass différents. Donc ça, effectivement, tu ne l'as pas en Ant. En Ant non plus, effectivement, tu n'as pas les conventions de nom. C'est-à-dire que les librairies que tu utilises ou les librairies que tu produis, une bonne pratique, c'est d'injecter au niveau de son nom, en fait, la version pour assurer une traçabilité, une meilleure traçabilité. Là aussi, Ant n'apporte rien. Donc en fait, c'est à chaque projet, à chaque équipe projet, de le recoder soi-même. Et puis l'autre type de convention, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une notion de cycle de vie, c'est-à-dire tout simplement, avant le packaging, je voudrais que mes tests unitaires se lancent. Mais avant que mes tests unitaires se lancent, il faut que mes tests soient compilés. Plus précisément, il faut aussi que mon code source soit compilé, et il faut aussi que, si éventuellement j'ai des tâches de génération de code, il faut que ma tâche de génération de code soit exécutée avant. Et effectivement, tu le recodes à chaque fois. Mais, encore une fois, dans le cadre des projets Java J2E, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, même si ton script de build va évoluer au cours de temps, cette phase-là, elle n'a pas vraiment trop évolué. Et donc, du coup, tu le fais une fois pour toutes, et après, tu n'y touches plus. Et puis, c'est pas vraiment... C'est pas si coûteux que ça de le mettre en place. Souvent,
ça c'est discutable, ça dépend. Quand ton projet vieillit, que les équipes tournent,
c'est à voir. Et puis surtout sur les conventions, rien n'empêche finalement, en fait, tout dépend, en fait, c'est une question de contexte, d'organisation. Rien n'empêche finalement d'avoir en fait une cellule transverse,
d'avoir une organisation assez mature
et pour d'imposer des conventions avec des templates de scripts. Lorsque j'interviens en fait chez certains clients, en fait nombreux sont ceux en fait finalement qui ont fait des générateurs en fait de scriptant en fait. D'accord. Avec basé sur la notion de en fait ce que en Maven on appelle la notion d'archetype, c'est des templates en fait de projet, et en fait ça marche très bien, c'est facile à mettre en place et ça marche très bien.
Hard codé dans l'outil quoi. Donc,
mais effectivement,
donc, il faut avoir la maturité nécessaire. Voilà.
Et tout ça, en fait, ça, toutes ces raisons, en fait, finalement, ce manque de convention, cette difficulté de réutilisation, fait que on est né Maven en fait.
Ça c'était en quelle année à peu près pour resituer?
Alors Maven en fait c'est un petit peu compliqué parce que
globalement dis-nous à peu près si c'était au 20e siècle, au 21e siècle.
En fait Maven 1 c'est du 2004 en fait.
Ouais.
Donc ça date. Après il y a eu Maven 2 et d'ailleurs il y a eu le passage à Maven 1 à Maven 2 a été
assez mouvementé
et puis Maven 1 aujourd'hui ça n'existe plus du tout. D'ailleurs Maven 2 ils l'ont appelé Maven 2 mais c'est complètement différent quoi.
D'accord.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait Maven 2 c'est la vision de Maven 2 c'est convention over configuration. Donc l'idée
c'est original ça.
Donc l'idée c'est tu suis les conventions et du coup t'as le moins de choses à écrire. C'est-à-dire t'as un script de build qui est finalement en fait le but d'un système de bulles, c'est avoir un script de bulles en fait le plus petit possible, et donc qui entraîne, qui améliore en fait la maintenabilité. Et donc si tu suis vraiment les conventions, tu n'as presque rien à écrire. Donc ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est pas vrai.
Tu partages un certain nombre de choses, mais voilà.
Voilà. Donc pour reprendre la notion de convention, donc c'est quoi? C'est structure de répertoire, c'est le cycle de vie, les conventions de nom principalement. Donc Maven, ce qui est important de resituer, c'est que tout à l'heure on a parlé de Ant, mais Ant c'est juste un builder. C'est-à-dire que tu n'as pas de mécanisme de gestion de dépendance. Et justement, tu vas le coupler éventuellement avec Apache IV pour gérer tes dépendances. Et alors que Maven, il fait à la fois builder et gestionnaire de dépendance. Donc c'est pour ça que souvent on compare, ça n'a pas de sens de comparer Ant versus Maven, mais de comparer plutôt Ant plus Ivy versus Maven.
D'accord. C'est pour ça qu'en fait à l'époque, quand il y avait que Ant contre Maven, Maven n'avait pas vraiment de peine à s'imposer.
Voilà, parce que notamment avec son mécanisme de gestion de dépendance qui est très puissant. Donc Maven, c'est à la fois un builder, un gestionnaire de dépendance et à la fois aussi un générateur de documentation. Donc générateur de documentation, donc ça va aller génération des rapports des tests, du résultat de l'exécution des tests, les différentes métriques, donc on pourra y revenir éventuellement, donc c'est des métriques à la fois statiques de qualité de code, par exemple de type checkstyle, PMD, CPD, ou des métriques de type couverture de code, ou tout simplement la javadoc. Alors, en termes... Maven, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Maven, en fait, c'est un corps et un ensemble de plugins qui gravitent autour. D'accord ? Et le corps, il est très léger. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien. Je crois que ça fait autour de 1,5 MB. Et tout le reste est en plugins. Et ces plugins, en fait, ils sont stockés en fait, dans des repositories distants. Dans des repositories Maven. Soit d'entreprise, soit des repositories internet, en particulier le fameux repository central de Maven sur internet.
Donc ça permet de partager toutes les libs open source les plus connues.
Voilà, donc l'avantage c'est bien sûr déjà un mécanisme de plugin, c'est que si je veux faire évoluer juste la version d'un plugin, je peux switcher quoi. C'est très simple, je remplace, etc. L'autre avantage, c'est que c'est stocké dans des repositories communs, en fait, publics, et donc du coup accessible à tout le monde. Mais
il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est comment est-ce que les gens finalement se disent je vais héberger de la librairie Java sur un repo Maven quoi. Qu'est-ce qui pousse une entreprise à héberger un repo Maven?
En fait, aujourd'hui, tous les projets open source classiques en fait sont dans le repository central.
Mais le repository central, alors, il est financé par qui? Parce que si tu me dis que la planète entière download du repository central,
en fait, il y a des mécanismes de synchronisation. En fait, toi éditeur, en fait, tu t'abonnes.
Ouais.
Et puis après,
tu fais miroir de ce truc.
Non, tu t'abonnes au repository central et lui, il te récupère la librairie, ton dernier livrable en fait. Voilà. Et sinon, si tu es un simple éditeur, puis tu n'es pas encore dans les petits papiers de Jason Van Zyl,
le leader de Maven.
Voilà, donc c'est un homme, une vision. Et donc là, tout simplement, tu fais ton propre repository, repository d'éditeur.
C'est au projet d'aller te pointer.
C'est au développeur Maven de se connecter, enfin de s'abonner à ton repository d'entreprise quoi. Ça c'est en le déclarant quoi.
Ça c'est quand même sympa parce que du temps de Ant c'était le répertoire libre et puis comme il n'y avait pas de gestion de dépendance en fait c'était assez brouillon. Là je pense qu'on est vraiment structuré et puis on peut commencer à s'automatiser, on peut commencer à parler d'usine logicielle, on peut mettre du Maven qui va chercher les librairies.
Voilà. Alors en fait c'est pas si simple que ça.
Alors vas-y explique-nous tout là.
En fait cette idée en fait de plugin, de pouvoir changer une version d'un plugin comme ça, d'avoir un repository public, c'est très bien. Le problème, c'est que Maven, ils ont été trop loin en proposant un découpage trop fin. Donc, comme je te disais, en fait, Maven, c'est un corps puis un ensemble de plugins qui gravitent autour. Tous ces plugins, en fait, ils sont pas dans la distribution. C'est-à-dire quand tu télécharges Maven, tu télécharges l'archive, tu la dézip, tu sets une variable d'environnement, tu as que le corps. Mais tu peux pas, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu veux, même si tu as écrit un programme Java type Hello World, tu veux simplement le compiler, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il te faut être connecté en fait à un repository distant qui stocke tous ces plugins. Donc ça peut être soit un repository d'entreprise, soit si tu débutes en Maven, tu es chez toi, bon bah ça va être le Internet.
D'accord.
Et le problème, c'est que ces plugins eux-mêmes, en fait, ce n'est pas des blocs, en fait, ce n'est pas des composants. C'est-à-dire qu'un plugin, il dépend lui-même d'autres plugins ou de librairies tout simplement business. C'est par exemple, bah, j'ai besoin des common langues, des common IO, de log4j, ce genre de choses. Et donc, quand tu télécharges un plugin, tu télécharges donc l'artefact plugin avec tout ce qui dépend.
Toutes ces dépendances,
Toutes ces
d'accord.
dépendances.
Tu
Et
te
c'est
retrouves
pour
à
ça,
télécharger Internet, non? J'ai l'impression.
ben, c'est un petit peu le reproche qu'on fait, c'est-à-dire que effectivement, du coup, pour simplement compiler un Hello World, pour lancer la compilation de ton public static vogtmain avec un println Hello World, ben, tu te retrouves à télécharger à peu près 70 jars.
Ouais.
Et là, effectivement, tu comprends pas très bien, alors que du temps de Ant, tu téléchargeais Ant. Tu le dézippais, donc tu l'installais avec la variable Ant Home, tu avais la tâche de compilation Javac, et ça y est, c'était fini. C'est comme une petite manette, tu prends, tu télécharges, tu le déposes sur ton file system, et ça y est, pas besoin de connexion Internet, toutes ces histoires derrière un proxy, etc. Non, c'est fini. Alors que là, c'est vraiment une structure, vraiment une approche finalement industrielle très entreprise. Mais certes, tout est dans des repositories publics, mais ils ont été trop loin en termes de découpage. Pourquoi ne pas avoir fait finalement des blocs de plugins? C'est-à-dire, je télécharge mon plugin de compilation et il me ramène tout ce qui. Tout ce, enfin, il inclut tout ce qui va bien avec, mais je télécharge qu'un bloc et pas 50 jars.
Mais
Et
là,
du
ils
coup.
ont le découplage hérité du jar. Donc
Ouais, mais le problème, c'est super gênant. Parce que ça, c'est pour un plugin. Mais le problème, c'est que ça va être la même chose pour n plugins. Et du coup, pour une vraie application, mais tout simplement une application classique Java J2E, juste je compile, je package, je lance mes tests et je déploie, bah, tu te retrouves avec un repository qui est énorme. Et ce repository-là.
juste à cause des dépendances liées au plugin de compilation et au plugin du cycle de vie de
Voilà,
ton build.
parce que tu as un découpage très fin. Mais le problème, ça pose des problèmes, c'est que. Bon, premièrement, déjà, c'est une hérésie de dépendre d'un repository public. Parce que le but, quand
Enfin, ça
même.
dépend du contexte, mais bon, il y
En
a plein
fait.
d'entreprises qui sont Internet Open et il n'y a pas de souci. Où elles font leur miroir en interne et puis c'est réglé.
Ouais, mais en fait, ce qu'il faut surtout,
D'ailleurs,
c'est.
y a pas mal de, y a pas mal de, comment dire, de contextes de production qui font que justement, tu es bloqué à une version de lib et tu peux pas évoluer, etc. Donc, je vois bien dans une structure un peu, comment dire, un peu rigide, faire un repository Maven d'entreprise avec seulement les librairies dont mes projets ont besoin, en fait.
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'en fait, ce qui est important de dire, et ça c'est vraiment important, surtout dans des contextes industriels, c'est la reproduction de la chaîne de build. C'est-à-dire que 10 ans après,
Tu veux dire le fait qu'une shell de build puisse dériver ou plutôt la reproductibilité
la reproductibilité du build,
D'accord.
toujours permanente, et dans le futur, pendant 10 ans, je vais pouvoir revenir à un point précis.
Dans le temps et l'espace.
Voilà, et reproduire ma chaîne de build. Et le problème, c'est que comme tu dépends de repository, donc de repository public, donc il te faut en fait ben, les administrer ces repositories, parce qu'il faut les sauvegarder, parce que tu veux reproduire la chaîne de
Voilà,
build.
faut les baseliner, faut les
Alors,
archiver et puis
déjà, c'est un problème parce que il y a beaucoup de jars à gérer, quoi. C'est énorme, quoi. Repository Maven, c'est énorme. Ça se corrompt facilement. Et comme je te disais, pour moi, c'est une hérésie de dépendre d'un repository public parce que, éventuellement, bah, à un instant T, il est indisponible. Et donc, tu es obligé finalement de rajouter une surcouche, c'est-à-dire de mettre en place en fait des systèmes de gestion de repository. Donc, par exemple, c'est les fameux Nexus,
D'accord.
Archiva, Artifactory, etc. pour administrer en fait ces gestionnaires de repository.
Oui, mais
Et eux,
il y a
leur
bien ce
rôle.
besoin-là, justement. Enfin, ce que Maven t'apporte, justement, c'est cette capacité à dépendre d'une librairie qui est quelque part dans le monde et elle te le ramène. Ça, c'est bien un service à valeur ajoutée. Donc, le coût de ce service, finalement, c'est quoi? c'est le fait de devoir administrer un archivat chez toi si tu veux justement ne pas perdre la qualité de download. Si tu veux assurer un SLA, comment dire, une certaine qualité dans l'accès de tes projets, en fait, bah, tu mets en place ton archivat, ça te coûte un peu cher. C'est un peu embêtant, comme tu l'as dit. Mais au moins, ça t'apporte le service et tu garantis ce service-là en interne.
Ben ouais,
Donc, tu payes un coût, effectivement. Il faut prendre le coût dans l'équation, quoi.
c'est quand même dommage parce que,
D'accord.
en fait, c'est très bien pour l'aspect en fait des très gros projets. Mais c'est souvent en fait une grosse infrastructure qui est souvent inutile pour des
Je comprends.
petits et des projets moyens.
Ce que tu dis, c'est
Parce que,
qu'on a
imagine en
un
Ant,
service génial, mais on n'en a pas forcément besoin.
parce que regarde, en Ant, par exemple, tu avais typiquement. Tu dépendais d'un framework de log, Log4j,
Ouais.
d'un framework de test unitaire, JUnit. Tu avais ton petit répertoire libre avec ces deux librairies, ces deux artefacts dans ce répertoire libre au niveau de ton projet. Éventuellement, ce répertoire libre était soit dans un répertoire, un file system partagé, backupé par d'autres systèmes externes, ou tout simplement au niveau de ton projet et puis géré en conf. Pourquoi pas? Puis, tu voulais faire une montée de version de ta librairie. Ça consistait tout simplement à télécharger manuellement sur Internet, par exemple, tu veux faire une montée de JUnit 3.8.1 à JUnit 4.5, tu téléchargeais JUnit 4.5, tu le mettais dans ton répertoire libre, tu enlevais l'ancienne librairie, et ça y est, c'était fini.
Ouais, je
Alors que
comprends bien.
là,
Là, on avait la simplicité, aujourd'hui on a la puissance de
alors que là, tu vas
l'automatisation, mais
modifier
on
en
perd.
fait ton script Maven. Tu vas donc, grâce à donc tout ce mécanisme Archiva qui se connecte à Internet, récupérer toute la librairie.
Ouais.
Mais bah, faut le maintenir, ce gestionnaire de repository, puisqu'il administre.
Et ce
Donc,
coût, il est,
il est énorme.
il est,
Il est
il est
énorme.
cher, il est
Ah,
cher.
il est énorme.
Mais si, en fait, donc plus tu as une organisation importante, plus tu peux capitaliser ce coût-là et tu vas le.
Voilà.
Bon, après.
Alors, ça c'est le premier. Ça c'est le premier point. Mais Maven, en fait, c'est pas si bien que ça, parce que le problème de ces repositories Maven, c'est qu'en fait, ils ont un layout, c'est-à-dire une organisation interne
Ouais.
figée.
D'accord.
Et ça, donc effectivement, là, il n'y a aucune flexibilité. Et ça, c'est quand même dommage, parce que, par exemple, moi, je rencontre le problème, c'est pouvoir en fait migrer un repository existant, donc
Ouais.
en Maven 2. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir directement en fait réutiliser un repository existant nativement,
Ouais.
je suis obligé de mettre en place des procédures de migration de mon repository donc d'entreprise legacy vers mon repository Maven pour qu'il ait la bonne organisation, la bonne structure de type Maven, c'est-à-dire en gros en fait j'ai un répertoire qui correspond à l'entité organisationnelle, un sous-répertoire à artifact, un sous-répertoire version et ensuite les artifacts. Mais on pourrait se poser la
Tu
question, mais
préférais customiser
oui,
ta structure plutôt que.
mais pourquoi finalement imposer un layout?
Convention over configuration.
Mais oui,
Ils ont été jusqu'au bout, même
mais le
dans le
problème,
layout.
c'est que Maven, c'est pas l'outil ultime, puis c'est pas l'outil magique, puis il n'est pas seul au monde. Par exemple, notamment une target plateforme Eclipse. Toi qui connais bien Eclipse.
Allez, on peut en parler si tu
Bon,
veux.
eh
Ouais.
ben.
Donc là, on passe un peu dans le monde, on va dire, OSGI, mais plutôt ce qu'a fait Eclipse au-dessus de OSGI. Donc il y a la même notion de repository, mais qui est plus locale à un produit, en fait.
Avec la notion de target plateforme.
On peut contribuer à cette target plateforme pour enrichir, en fait,
Voilà.
le programme
Et ben
en cours
si
d'exécution.
je veux utiliser un script, si je veux utiliser le builder Maven pour builder mes plugins, mes applications RCP,
Ouais.
enfin mes plugins Eclipse ou mes applications RCP, je suis obligé en fait de mettre tous mes bundles OSGI, mes org Eclipse, SWT, etc. Dans un repository Maven. C'est quand même fou.
Alors que ben jusqu'à présent, là, Eclipse, pour le coup, ils sont pas du tout dans cette
Non,
organisation.
Eclipse, c'est du full Ant.
Voilà, donc les librairies, elles sont sur Internet, faut se les télécharger. On peut signaler la présence du portail OSGI Alliance, qui offre effectivement un repository requêtable de bundle. Qui peut effectivement calculer sur Internet directement les dépendances, mais ça va, il n'y a pas le même l'équivalent d'un système sur Internet où on télécharge les bundles, quoi.
Voilà. Et donc c'est quand même. Alors après, par exemple,
Là,
si.
on touche au débat quand même OSGI contre Maven, parce que tous les deux, ces deux systèmes-là maintiennent des
En
métadonnées
fait, pas
de.
tout à fait. En fait, il y a deux mécanismes. Là, le point qu'on abordait, c'était l'aspect en fait layout de repository, où je disais en fait, je peux pas réutiliser mon repository Eclipse, qui est une target plateforme. Nativement, je suis obligé de la convertir dans un repository Maven 2, mais donc du coup, qui n'est plus lisible par les mécanismes, enfin les outils Eclipse natifs. Donc c'est quand même,
D'accord, oui.
on n'en veut pas en gros. Alors après, je crois c'est dans la version Nexus Pro. Avec notre ami Jason, maintenant il supporte une target plateforme, donc j'ai pas encore testé,
Ouais.
mais bon, voilà, on voit bien que c'est pas la philosophie. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point,
Il fait un effort.
comme tu parlais, c'est l'aspect OSGI. Alors effectivement, le problème c'est que Maven, ah oui, ça je l'ai pas dit, c'est que Maven en fait il est né surtout, donc c'est comment je vais avoir configuration, mais c'est né surtout parce que maintenant les applications Java J2E c'est très standardisé. Ça a beaucoup évolué et c'est né de cette standardisation des
Enfin,
projets.
voilà, ouais. Dès le début, J2E,
Voilà. Parce qu'on se
c'est
rend
normé.
compte qu'entre deux projets Java J2E, on utilise la. C'est toujours pareil quoi. C'est-à-dire, on compile, on a notre petit webinfo.xml, on package dans un WAR, dans un ER, il a toujours la même structure, puis c'est fini. Donc effectivement, c'est très conventionné quoi. Donc Maven, pour ça, c'est vrai que c'est sympa. Et. Dans J2E, on a un mécanisme de dépendance particulier. Je dépends d'artefacts distants que j'injecte ensuite au niveau de mon serveur d'application ou au niveau de mon archive web dans mon webinflib. Au SGI, c'est différent. Et aujourd'hui, effectivement, Maven ne sait pas lire un descripteur au SGI. Alors, il y a des projets, il y a eu pendant longtemps, il y a eu le Maven PDE plugin, mais finalement, il ne faisait en fait que générer en fait un script ANT PDE, parce que PDE c'est le builder de Eclipse, mais c'est du ANT derrière, et l'invoquer. Donc ça faisait que ça en fait.
Ça rendait le service, mais pas de
Donc,
façon très
voilà.
élégante, on va dire.
Et maintenant, en fait, il y a le projet Apache Tico, qui est un sous-projet de M2 Eclipse. Et en fait, il y a deux.
M2 Eclipse, le plugin
Voilà,
pour le
c'est
support de Maven dans
dans
Eclipse.
Eclipse. En fait, voilà. En fait, il y a deux plugins Eclipse. Il y a deux plugins
Concurrent,
Maven pour Eclipse. Il y a IAM et M2 Eclipse.
oui. Et il y a l'un des deux qui appartient à la fondation Eclipse. Il
Voilà.
semble avoir vu passer l'info
En
et
fait, M2 Eclipse,
c'est l'officiel en quelque sorte,
Allez, officiel, en fait.
celui qui est hébergé par la plateforme,
En
l'écosystème
fait, c'est
Eclipse, on
lui
va
qui est
dire.
fait par Sonatype, qui est la boîte de Jason Van Zyl. Et l'autre, c'est fait par l'autre société Maven, parce qu'en fait, comme tu le sais, elle a été scissée en deux, en fait. Parce que Jason, il s'est fâché avec tout le monde, en fait. Et puis, Devzoo, ça a été coupé en deux, et c'est devenu, d'un côté, Exist Global, enfin, Exist, et puis de l'autre côté, Sonatype. Aujourd'hui, en gros, en résumé, dans Sonatype, c'est Jason avec ses copains. Mais c'est pas forcément. En fait, il met les moyens
Mais là,
pour
j'allais
faire
dire
avancer
que le
la.
meilleur gagne, là. Si on a deux plugins qui rentrent en compétition, on va avoir peut-être une avancée majeure d'un des deux côtés.
En fait, à chaque release, ils se concurrencent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, M2 Eclipse est plus en avance.
D'accord, c'est un peu l'info que j'avais en tête.
Voilà. Et juste pour revenir tout à l'heure sur Apache Tico, en fait, il y a deux visions dans Apache Tico, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le premier mode, c'est l'utilisation native de OGI, c'est-à-dire en fait, je me base à partir des fichiers manifest.mf, d'accord,
Ouais,
qui
donc les
décrit tes.
descripteurs de
Voilà, je
dépendance.
vais les lire et après c'est le mécanisme OGI. Donc là, je suis en natif, pas de souci. Mais à ce moment-là, le rôle de Maven, ce n'est qu'un wrapper, ce n'est qu'un invoqueur. Et donc, on pourrait se poser la question, mais quel est l'intérêt de mettre en place Maven, l'infrastructure Maven, avec toute cette notion de repository, juste pour invoquer, pour lire mes fichiers
Mais oui,
manifest.mf et
Grégory, quel est
l'invoquer?
l'intérêt d'utiliser Maven
Eh
pour
bien,
ça?
il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, bon d'accord.
Il n'y en a pas. Et
Ok.
la
Donc
deuxième.
la problématique du build OSGI par Maven.
Faut surtout pas utiliser Maven.
D'accord, ok.
Parce que la deuxième.
Merci pour ton info.
Parce que le deuxième mode de fonctionnement Et là, tu vas halluciner, c'est qu'en fait, c'est à partir des informations, des métadonnées, donc des manifestes.mf,
ouais.
des métadonnées OSGI, il va générer dynamiquement en fait les pom.xml, qui est les descripteurs Maven, et les invoquer.
D'accord, donc là on est un peu dans la situation
et
inverse.
voilà donc
ouais. Bah oui, bah de toute façon il faut bien qu'il y en ait un qui fasse référence, donc on génère l'un à partir de l'autre.
Et là bah voilà, donc là si t'as un bug, bah toi qui connais bien OSGI, quand t'as un bug, je te laisse donc non, pour cette partie là effectivement ne jamais utiliser Maven pour builder des plugins Eclipse. L'autre, pour continuer sur l'aspect historique, juste pour finaliser sur Maven, l'autre reproche qu'on fait souvent à Maven, surtout au départ, en fait, c'était son manque de documentation. En fait, aujourd'hui, en fait, on a deux types. Aujourd'hui, en fait, on a deux types de bouquins. On a le premier bouquin qui était le Better Build with Maven. Et puis le bouquin en fait de Sonatype, The
ouais.
Definitive Guide, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est finalement c'est assez récent parce que pendant longtemps en fait un des reproches bah, c'est que c'était pas clair, c'était pas documenté et on avait un certain coût en fait pour les développeurs
ouais,
rentrer
à rentrer dedans. D'accord.
Les autres points faibles de Maven, pour faire rapide, c'est en fait, bah, c'est lui-même est également basé sur une description XML. Et c'est effectivement, malgré ses conventions, en fait, il peut aussi venir en fait très vite lourd les descripteurs XML, parce que en réalité, dès qu'on veut surcharger une phase du cycle de vie, changer les conventions de nom ou changer la structure d'un répertoire. Ou même les paramètres par défaut d'un plugin,
ouais.
Ben on se rend compte très vite qu'on a un descripteur très verbeux et on retombe.
D'accord,
finalement dans les mêmes problèmes que Ant.
Le coût d'éloignement de la convention, il est assez cher.
C'est très rigide,
ouais,
donc il manque de flexibilité. Donc ensuite.
Donc là, on vient vraiment de passer du temps sur Maven.
Voilà, on va pas en parler plus.
Dis-nous un peu la suite là. Qu'est-ce qu'il y a derrière Maven qui toi t'as. T'as fait introduire
Après,
Gradle.
En fait, juste avant Gradle, en fait, il y a eu Gantt. Donc Gantt, en fait, c'est plus proche en fait de Ant, ou tout simplement, en fait, c'est une surcouche de Ant avec une DSL Groovy.
Donc c'est un builder aussi, c'est comme Ant.
Ce n'est qu'un builder. Il permet aussi de s'interfacer en fait avec Ivy, aussi de manière programmatique,
ouais.
Mais il ne joue le rôle que d'un builder. Et l'avantage. Ben, c'est qu'il permet de réutiliser toute tâche Ant existante, mais dans une syntaxe programmatique Groovy.
D'accord, donc, ce que tu nous citais tout à l'heure sur Gradle.
Voilà, donc c'est plutôt un point positif, mais c'est lightweight. Il ne fait que le builder, il n'y a pas de convention. Donc c'est comme en Ant, c'est à chaque équipe de développement de mettre en place ses propres conventions. Et donc, par rapport à ça, ben, c'est vrai que là, à ce moment-là, il est né Gradle, où en fait l'idée. C'est tout simplement, j'utilise ce qui est bien dans Maven, c'est les conventions. C'est-à-dire que, effectivement, avoir par défaut en fait des conventions de répertoire, des conventions de nom, un cycle de vie, c'est génial et c'est un vrai atout. Mais c'est flexible et ça on le détaillera. On n'est pas lié à ces conventions. C'est à la demande en fait. L'autre avantage, ben c'est comme Gantt, en fait c'est un langage Groovy, c'est-à-dire, et c'est au-dessus de Ant, c'est-à-dire que je peux réutiliser en fait toute tâche Ant existante nativement.
Sympa.
Et ça c'est parce que le problème de Maven finalement, c'est pourquoi avoir voulu tout réécrire. Ils ont fait un système de build complet, ils ont mis un effort mais considérable, alors que finalement, mais pourquoi réinventer la roue? Ant, il y a tout dans Ant. Comme je disais tout à l'heure, n'importe quel outil, n'importe ce qu'on veut faire, il y a une tâche Ant existante. Et ça, c'est énorme. Et Gradle te permet de réutiliser toute tâche Ant existante, mais de manière programmatique, avec Groovy, donc plus facile. L'autre avantage de Gradle, ben, c'est son gestionnaire de dépendance. Parce que Maven, en fait, souvent, en réalité, ça on pourra le détailler éventuellement, c'est, en fait, il ne marche pas très bien. Il y a souvent des problèmes en fait de l'algorithme de résolution de dépendance parce que en fait Maven il y a la notion de dépendance transitive et donc souvent on arrive à une notion de conflit derrière un mécanisme de
résolution de conflit.
Voilà, et du coup, il n'est pas très performant et il vit et beaucoup plus là-dessus.
D'accord, c'est un peu le point sur
voilà.
lequel il dépasse.
Et après, en EV, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est surtout qu'en fait, on a une notion de configuration, c'est-à-dire des conteneurs d'artefacts, et en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire qu'on soit on utilise les conventions de Maven, donc nativement, ça c'est bien, il est au-dessus de Maven d'une certaine façon.
Ouais. Pour les gens qui sont habitués à Maven, etc.
Voilà, mais également aussi, si je veux par exemple définir mon propre conteneur qui contient ce set de librairies, j'ai pas de souci. Et puis surtout, en fait, l'avantage de Eevee, c'est que je vais pouvoir me binder en fait sur un repository, distant ou non, avec le layout que je veux. Et donc ça, c'est sympa.
C'est un peu le point faible que tu citais tout à l'heure.
Voilà.
Tu as la flexibilité sur le
donc,
sur repos.
C'est-à-dire que,
quoi.
Par défaut, on va quand même garder les repositories de Maven, parce que un des avantages de Maven, c'est qu'en fait, il met à disposition des repositories Maven où il y a tout dedans. Il y a toutes les librairies open source. Donc ça, nativement, je peux le réutiliser sans problème. Par contre, si j'ai envie de pointer sur un repository local ou distant ou un autre ou d'une autre organisation, pas de souci, je peux facilement l'utiliser.
Bon Grégory, là on a un petit problème technique. En fait, il n'y a plus de piles dans le recorder. Donc on va se le faire en...
Bravo Eric.
Ouais, voilà, super, bien préparé. En fait, on va se le faire en plusieurs épisodes. Donc juste un petit synopsis de la suite. Dans le prochain épisode de la prochaine fois, on finira effectivement sur la fin de l'historique. Tu nous termineras ce chapitre-là. Ensuite, tu nous citeras les critères de choix qui sont importants pour toi, pour le système de build, en fait. Et puis après, on rentrera vraiment dans Gradle, toutes ces features qui ont été référencées au nombre de 6.
D'accord.
Puis après, tu nous parleras des 2-3 défauts que tu as identifiés. Et puis un petit point sur les déploiements. Et puis on fera une petite conclusion sur Gradle, quoi.
Bah ok, ça marche.
Ça te va? Allez. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés. Et à bientôt.
Merci.